c'est Info Club Sandwich. Salut tout le monde, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale, associative et culturelle préférée, sur Radio Campus Amiens, sur le 87.7 FM, sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2026, ce soir c'est enfin le week-end, et aujourd'hui autour du plateau, je suis avec Colline pour l'interview du jour. Qui est-ce que tu reçois ?
Bonjour Sonia, alors je reçois deux membres du bureau de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on commence ?
Donc de la section d'Amiens, Fédération de la Somme, de la Ligue des droits humains.
Michel Leroux, je suis aussi membre du bureau de la section d'Amiens.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la Ligue des droits de l'homme et du citoyen ? Et si j'insiste bien sur la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, c'est parce qu'il y a un petit changement.
Oui, parce que nous avons choisi au dernier congrès de nous appeler Ligue des droits humains, ce qui est quand même plus inclusif. Mais nous sommes une vieille organisation, une ONG assez ancienne, puisque nous avons été fondés en 1898 à l'occasion, malheureusement, de l'affaire Dreyfus, qui était une histoire absolument lamentable dans l'histoire française, une histoire d'antisémitisme. Et la Ligue des droits, qui s'appelait à l'époque Ligue des droits de l'homme,
Et du citoyen,
était fondé à ce moment-là. Et nous continuons un combat contre toutes les formes de racisme, toutes les formes d'atteinte aux droits humains. Et il y a du travail.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions que vous mettez en place, justement ?
Alors, en cette rentrée, nous avons notamment un rendez-vous qui est le 20 septembre avec le syndicat des avocats de France, avec le syndicat de la magistrature, sur une actualité législative. Le Parlement est saisi d'une modification d'un texte qui a été introduit dans le Code de sécurité intérieure il y a 10 ans, en 2017. Chacun se souvient du mois de juin 2023 avec l'assassinat de Naël à Nanterre. Ce texte, il y a 10 ans, a introduit la possibilité pour la police et pour la gendarmerie d'utiliser des armes létales, notamment en cas de refus d'obtempérer. Aujourd'hui, un certain nombre de policiers ont été poursuivis devant la justice pour des tirs absolument inacceptables, comme celui de Naël. Et donc la réponse du ministère de l'Intérieur avec un député des Alpes-Maritimes est tout simplement de modifier ce texte d'il y a 10 ans pour introduire l'idée que, a priori, les tirs des policiers sont dans le cadre de la loi. Et donc, aujourd'hui, quand il y a un tir de policier, le procureur s'en saisit, il y a une enquête, et donc c'est la suppression de l'enquête systématique en cas de tir policier qui est en jeu. Donc, il y a eu 700 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale pour demander à ce que ce texte soit redébattu. Cette pétition a été tout simplement mise au panier, alors que normalement, à partir de 500 000 signatures, il y a débat automatique. Et donc, notre objectif aujourd'hui est de réouvrir la discussion à l'Assemblée nationale et de faire obstacle à son adoption par le Sénat.
Et ça, c'est à l'échelle nationale ?
C'est à l'échelle nationale et à l'échelle locale également.
Et comment ça prend forme à l'échelle locale ?
Donc, nous allons organiser une rencontre avec le public sur le sujet et réunir le maximum de soutien pour réintervenir sur ce sujet.
Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Juste que si cette loi est adoptée, ça devient un véritable permis de tuer sans aucune possibilité d'enquête. C'est quelque chose qui est vraiment une atteinte aux droits et aux libertés fondamentales de tous les citoyens.
Alors ça, c'est quelque chose qui va arriver. C'est une actualité qui va bientôt arriver. Si on parle un petit peu de ce que vous avez pu mettre en place avant, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de réussite ou d'échec ?
Il y a un peu plus d'un an, on a mené une action contre l'arrêté anti-mendicité qui avait été promulgué par la maire d'Amiens de l'époque et qui interdisait finalement à toute personne de mendier dans l'espace public, dans le centre de la ville. Mais c'était un centre assez large. Hein. J'avais à l'époque travaillé sur le plan et ça mettait en cause beaucoup de monde. Alors que, comme on l'a rappelé à Madame la maire à l'époque, personne ne va mendier par plaisir et personne n'est là pour troubler l'ordre public, puisque c'était le prétexte qui était pris. Donc nous avons mené une action en justice avec d'autres organisations, notamment avec les maraudes amiennoises, et nous avons gagné. Nous avons gagné devant le tribunal et Madame la maire a retiré son arrêté, ce qui n'était que justice.
Le travail avec d'autres associations amiennoises, c'est quelque chose que vous connaissez bien.
Oui.
Vous travaillez avec quelle autre association, par exemple, pour quel projet ?
Eugène l'a dit, on travaille aussi avec des organisations plus de juristes, le syndicat de la magistrature, les avocats de France. On travaille avec la CIMAD, qui s'occupe des droits des personnes migrantes. On travaille avec RESF, bien sûr, puisqu'on a contribué à créer RESF, c'est-à-dire le réseau
d'éducation.
De soutien d'éducation sans frontières. On travaille aussi avec des associations locales qui font de l'éducation populaire, comme l'Université populaire d'Amiens, par exemple.
Voilà, et l'Université populaire d'Amiens organise ce 30 septembre une conférence à la salle de Voilly sur la question de l'illibéralisme, c'est-à-dire comment l'état de droit aujourd'hui est grignoté et morcelé de toutes parts, hein. À l'exemple de ce à quoi on assiste dans d'autres pays, c'est évidemment les États-Unis de Trump et l'actualité de l'année 2027 avec la menace de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement Front National fait que ce sujet est aujourd'hui tout à fait important. Donc ce sera Prancher, un enseignant spécialiste des questions de liberté publique, qui interviendra avec l'Université populaire d'Amiens.
Et justement, avec cette année électorale qui arrive, est-ce que vous allez vous engager politiquement ? Enfin, la Ligue des droits humains, va-t-il s'engager politiquement ?
Oui, parce que c'est... Ça fait partie de ce qu'est la Ligue des droits la LDH, la Ligue des droits humains, depuis qu'elle existe. Nous sommes historiquement, une organisation qui est intervenue pour rassembler en 1936 au moment du Front populaire. Chaque fois qu'il y a eu des dangers sur la démocratie, sur les droits, nous avons pu rassembler. Alors nous ne sommes pas un parti politique. Chez nous, il y a des gens qui appartiennent à toutes sortes de partis politiques ou à aucun, qui ont des sensibilités différentes. Bien sûr, il n'y a personne d'extrême droite hein, chez nous, je vais le préciser tout de suite. Mais nous rassemblons des gens d'opinion, de confession ou de non-confession totalement divers, mais qui ont pour but commun de promouvoir l'égalité devant la loi, la justice, les droits. Et de ce point de vue-là, oui, on fait tout ce qu'on peut pour rassembler. Alors cette année, au mois de janvier, on avait lancé un appel qui a eu un certain écho pour justement un sursaut, pour que ne pas laisser le champ libre à l'extrême droite dans ce département, au moment des municipales. Et on compte bien effectivement réunir ses forces à nouveau pour essayer d'obtenir un rassemblement, parce que nous sommes des optimistes. Absolument.
Communiqué que l'on peut retrouver d'ailleurs sur votre page Facebook qui est publiée.
Voilà.
Cet engagement que vous allez faire, est-ce que vous êtes libre dans vos actions ou est-ce que vous dépendez vraiment de l'association nationale ?
Nous avons un cadre débattu tous les deux ans en congrès national. Et à l'intérieur de ce cadre défini en commun, nous avons ensuite, effectivement, chaque fédération et chaque section est libre d'engager le travail. Donc en ce moment, par exemple, on a parlé de l'échéance électorale, de la menace d'arriver au pouvoir du Rassemblement national. C'est une menace qui est très présente. Cette semaine, on a un député de la Somme du Rassemblement national qui vient de lancer une injonction aux autres forces politiques sur la question du port du voile dans l'espace public. C'est quelque chose qu'au niveau de la Ligue des droits humains, nous combattons absolument. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 parle bien de liberté d'opinion, y compris religieuse. Cette injonction du Front National aux autres forces politiques met en cause en réalité la Constitution. Et l'objectif du Front National est de permettre du Rassemblement National et de permettre aux législateurs de se passer non seulement de la Constitution française, non seulement de la Constitution de 1789, mais également de toutes les conventions internationales signées par la France jusqu'à présent. Et leur projet de référendum sur la révision de la Constitution a un article premier qui interdirait à tout magistrat d'opposer à une nouvelle constitution, à une nouvelle loi, toute convention internationale, notamment la Convention européenne sur les droits de l'homme.
Alors, il y a aussi une autre mobilisation qui va avoir lieu, qui est face à l'environnement, puisque vous défendez pas seulement les droits à la vie privée, les droits, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a aussi le droit à l'environnement. Et en ce moment, avec l'été qu'on a vécu, les canicules qui ont été assez difficiles à vivre, il y a une mobilisation donc, qui touche l'environnement et qui propose une mobilisation le 15 septembre à Paris et le 26 septembre dans toute la France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce dont il s'agit et si quelque chose va être organisé aussi à l'échelle locale ?
Alors, le 26 septembre, donc à 14h, à la maison de... Devant la Maison de la Culture, il y aura un rassemblement suivi d'une manifestation sur cette question-là que nous sommes en train de préparer activement avec d'autres forces, les syndicats étudiants, les syndicats ouvriers et un certain nombre de formations politiques également.
Oui, je dirais que ce n'est pas la première fois non plus que la LDH est présente lors de manifestations pour garantir les droits à l'environnement. Je vais revenir en 2023, au moment où il y a eu les manifestations contre les méga-bassines, où la LDH était présente, non pas comme manifestant, mais comme observatrice des libertés et observatrice des droits. Nous avons été mis en cause à l'époque parce que nous avons dénoncé des actions qui étaient absolument indignes de la part de la police, notamment d'avoir empêché les ambulances de passer. Et puis, nous sommes intervenus aussi lorsque, après, on a fait jouer les lois antiterroristes. Je reparlerai peut-être tout à l'heure des lois antiterroristes, si vous m'en donnez l'occasion, pour essayer d'interdire un mouvement, les soulèvements de la Terre, qui était totalement un abus de pouvoir. Bon, d'ailleurs, la dissolution de cette organisation a été cassée hein, par le Conseil d'État. Et on voit bien aussi que là, il y a un mouvement qui se fait. Alors, d'une part, il y a l'élargissement des droits aux droits environnementaux. Ça, c'est clair que dans les libertés et les droits dont jouissent les êtres humains, il y a d'abord le droit à l'eau, le droit à une vie saine, le droit... Bon, ça fait partie aujourd'hui, on le voit bien avec la sécheresse et les canicules, que tout le monde n'est pas privilégié dans ce domaine-là, loin de là. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a un mouvement qui se fait justement animé depuis l'extrême droite et les droites extrêmes, d'essayer de bâillonner les mouvements écologistes, de les traiter d'éco-terroristes, d'empêcher des mouvements parfaitement pacifiques. Par exemple, devant chez Total, où on a gazé les gens qui faisaient juste un sitting devant l'immeuble Total. Ça remonte à il y a 4-5 ans. Et ce sont des actes qui nous semblent totalement inadmissibles, d'autant plus que, c'est qu'à le dire, la maison brûle et qu'il est urgent, mais vraiment urgent, de faire quelque chose pour sauvegarder notre environnement, sauvegarder le droit à l'eau et à l'eau pour tous. C'est un bien commun qui doit rester un bien commun.
Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme action au sein d'Amiens ?
Alors, dans les autres actions, il y a l'accès à la justice. On a aussi dans ce département, mais comme dans tout le reste de la France, on a eu les conséquences du de la réduction du nombre de fonctionnaires, la suppression de tribunaux d'instance, ce qui fait que les gens ordinaires sont de plus en plus éloignés de la justice. Et ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Il y a une carte qui montre qu'une quantité d'accès à la justice disparaissent. Et bien entendu, ceux qui ont les moyens, eux, auront toujours accès à la justice. C'est-à-dire que là, on est devant un procédé totalement inégalitaire. Donc, la date n'est pas fixée vraiment. Engager une action, justement, locale avec le syndicat de la magistrature sur ce sujet. Autre chose à quoi on essaye aussi d'agir, c'est le droit à la vie privée et à la sauvegarde de nos données personnelles.
Oui, c'est un point que vous vouliez aborder et qui est important pour vous.
Oui, c'est important parce que ça fait partie des attaques nouvelles contre les droits. Ce sont des problèmes qui ne se posaient pas il y a une vingtaine d'années et qui se posent de plus en plus. Je vais prendre deux exemples récents. Il y a l'histoire d'Octolib. Doctolib devient un passage incontournable si on veut prendre un rendez-vous chez un médecin. Doctolib est une entreprise privée installée sur un serveur privé, Amazon, qui a décidé de vendre nos données, qui nous a envoyé un gentil mail pour nous prévenir. Sauf que pour ne s'opposer à ce que nos données soient diffusées à d'autres, c'est très compliqué. Ça ne se fait pas de façon simple. C'est-à-dire que finalement, qui ne dit mot consens, donc si vous n'avez pas agi, eh ben vos données disparaissent. Vos données de santé, ça veut dire les données qui vont vous permettre d'avoir, ou qui plutôt vont vous empêcher d'avoir accès à un logement, accès à une assurance, accès à l'achat d'une voiture, accès à un prêt, parce que vos données de santé, qui seront diffusées, on ne sait pas trop à qui, diront que monsieur ou madame machin a eu est victime de telle maladie, a tel risque et ne peut pas souscrire une assurance. Enfin voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième fait, c'est le vol, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le vol de données qui a été commis dans l'administration des impôts, qui fait qu'il y a quand même les données, je ne sais plus, pas loin de 700 000 personnes qui ont été déjà revendues. Hein, ça veut dire que leur numéro de téléphone, leur vie privée se promène. Et le problème, ce n'est pas simplement que l'administration ne protège pas les données. Ça, c'est un premier problème et il est très grave. Mais le deuxième problème, c'est que pourquoi ces données sont-elles... Pourquoi ce passage forcé au numérique, parce que quand les données étaient sur papier, on ne pouvait pas les voler, on ne pouvait pas les diffuser. Donc pourquoi ? Simplement aussi parce que là encore, on a décidé de faire des économies sur les services de l'État, de supprimer, ça dure depuis 2006 à 2007, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, et que bien entendu, le numérique c'est tellement facile.
Là, vous évoquez des choses qui se sont passées, mais à l'échelle de la Ligue, est-ce que vous faites de la sensibilisation, par exemple, de la prévention ? Comment ça se passe ?
Alors, nous avons des groupes de travail, justement, sur ces questions. Et le problème, c'est aussi de faire connaître. Alors, on a des sites. On a des... Parce qu'on utilise aussi les moyens numériques, on ne peut pas s'en passer. Toutes ne sont pas mauvaises, d'ailleurs, il y a aussi cette facilité de communiquer, de débattre. On a aussi des revues, on a le fait qu'on va tenir un stand demain à l'Agora et que ça va être une occasion de discuter de ces questions-là. On participe aussi le plus possible aux villages associatifs quand ils ont lieu, par exemple celui du 1er mai, où on a eu beaucoup de gens qui sont venus discuter avec nous, débattre. Avec des... Comment dire ? Des associations ou des mouvements qui partagent nos questions, nos inquiétudes. On organise effectivement des conférences. Jeanne a parlé tout à l'heure de la conférence de Jean-Yves Franchère le 30 septembre. Voilà, ça, c'est un moyen.
Mais je ne vous cache pas que notre priorité, c'est comme en juin 2024, d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Et c'est vraiment ça qui va être, pendant les 7 mois qui sont devant nous, notre priorité. Il est tout à fait possible d'agir pour empêcher Le Pen d'être élu et ensuite d'avoir une assemblée à ses ordres. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que les citoyennes et les citoyens peuvent se dresser contre ce danger majeur.
Et justement, comment est-ce qu'on agit avec la Ligue des droits humains ?
Déjà, on vous invite pour les jeunes et les moins jeunes à adhérer à la Ligue des droits de l'homme. C'est un des moyens d'agir, de se concerter, de redévelopper une citoyenneté active. Et ensuite, nous allons faire campagne là très concrètement sur cette question du référendum, sur cette question des attaques contre la Constitution, sur ces attaques générales contre les contre-pouvoirs qui peuvent exister. On le voit bien avec les 70 municipalités Rassemblement National aujourd'hui, ce sont les syndicats, c'est le planning familial, ce sont les organisations féministes qui sont attaquées. Et donc, la Ligue des droits humains est une association généraliste et toujours disponible pour se mobiliser avec d'autres formes d'action collective contre cette actualité de plus en plus inquiétante.
Alors j'ajoute qu'on a encore la possibilité aussi, nous, d'intervenir, puisque nous sommes une ONG, d'intervenir dans les établissements scolaires. Et alors on peut soit répondre à des questions des jeunes sur les droits, ça c'est quelque chose qu'on fait très volontiers, et puis on organise aussi un concours d'écriture, les écrits pour la fraternité, et justement le sujet cette année c'est la démocratie. Donc, des classes d'école primaire, de collège, de lycée, peuvent, ou d'établissements du type maison familiale, peuvent très bien s'inscrire. Il suffit de nous contacter. Et puis, tout au long de l'année, les élèves avec leurs enseignants vont pouvoir produire. Alors, ça peut être un écrit, ça peut être une vidéo, ça peut être une chanson. Enfin, c'est très, très libre. Pour participer à ce concours qui est bien évidemment primé. Hein. Ça va de soi, on a des petits cadeaux à offrir aux finalistes et c'est quelque chose qui permet justement de faire réfléchir tout au long de l'année sur ce que c'est que, là, par exemple, cette année, c'est quoi la démocratie ? Est-ce que c'est juste le fait d'aller voter ? Il y a quelques années, on a eu des choses formidables justement sur l'environnement qui ont été réalisées par le Collège de Rivry, donc qui avait gagné le prix national. Très, très beau.
Et justement, toutes ces actualités, où est-ce qu'on peut les retrouver ?
Alors, nous avons une page Facebook qu'on alimente assez régulièrement, peut-être pas assez, mais on y... Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, le site national de la LDH qui est, couramment alimenté puisque le site est revu tous les jours et on a un fil... je suis en train de chercher le nom parce que c'est évidemment on a quitté X il y a longtemps et on a un fil d'infos qui est accessible sur le site national. Vous tapez LDH et vous arrivez sans problème sur votre navigateur favori, vous trouverez.
Je vous parlais d'une invitation à adhérer à la Ligue des droits humains, l'adresse ldh.amiens@ldh-france.org. Invite à prendre contact le plus grand nombre sur nos actualités.
Et de venir nous voir demain à l'Agora, puisque nous avons un stand, c'est le numéro 140. Et nous sommes, je ne sais pas si c'est un signe de nos préoccupations écologistes, mais nous sommes installés tout près des bornes de rechargement électrique.
Vous m'ôtez les mots de la bouche. Eh ben, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et oui, on retrouve.
Merci à vous.
Merci à vous pour l'invitation.
On vous retrouve à Agora demain.
On espère bien. On passera vous voir.
Merci à vous. Avant de continuer, on fait une petite pause musicale. On s'écoute Bad City de Junko Yagami, une chanteuse japonaise. Bad City, c'est une chanson sortie en 1983, une chanson sur un amour éphémère et le désir de retrouver un être aimé, même sous la forme d'une illusion. On écoute ça tout de suite. Hello. C'était Bad City de Junko Yagami. C'est la deuxième partie de l'émission et c'est l'heure de l'agenda culturel. Dimanche 6 septembre, la librairie du Labyrinthe organise un acro-art dans les orties au neige. Le but, c'est que vous accrochiez vos créations dans le jardin du Labyrinthe. Il y aura également un pique-nique et vous pourrez rencontrer des artistes et leurs œuvres. L'entrée est libre, l'accrochage se fait dès 9h30, sinon ça commence à partir de midi. Rendez-vous au chemin des Allages, à 400 mètres après le pont vers Camon. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 09 50 06 23 52. Pour les étudiants et étudiantes, la FAEP, donc la Fédération des associations étudiantes picardes, propose un questionnaire d'enquête sur les conditions d'études. Ça prend 5 minutes pour y répondre. Le questionnaire est disponible via leur Linktree sur leur Instagram, la FAEP tout attaché en minuscules. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour y répondre. Le but, c'est de défendre les droits des étudiants et étudiantes et de porter leur voix. Et enfin, une petite annonce, demain, le 5 septembre, c'est Agora, le salon des associations organisé par la MAM, la maison des associations d'Amiens Métropole. On sera en direct de 11h à 15h dans le hall de la Maison de la Culture, au programme deux tables rondes, une sur le thème du sport et l'autre sur le thème du handicap. Et voilà, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Un Enorme Dragon de Floricienta. Donc cette chanson, c'est une chanson qui vient de la saison 2 d'une telenovelas argentine de mon enfance, qui s'appelle Floricienta, et qui date de 2004. La chanson raconte une rupture amoureuse. Il y a beaucoup d'amour dans cette ICS. Mais donc un amour perdu, mais avec quand même l'espoir que cet amour revienne. Merci de nous avoir écoutés, et à demain sur Radio Campus Amiens.
Promesas se van con el tiempo. Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos. Yo construía un castillo de sueños que pronto se derrumbó. Cuando te vi en aquel bosque encantado, un duende dijo que tú eras mi príncipe azul, como si fuera por arte de magia llenar.